Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts de l'INSERM. Je me présente, je m'appelle Aurélie Deléglise et je suis responsable de la communication à l'INSERM Nord-Ouest, autrement dit dans les Hauts-de-France et en Normandie. Alors l'INSERM, c'est quoi ? L'INSERM, c'est l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Concrètement, c'est la science au service de la santé. À travers cette série de podcasts, nous irons à la découverte des hommes et des femmes qui œuvrent pour la santé de tous, ce qu'on appelle plus communément les chercheurs. Mais c'est quoi un chercheur ? Autour du mot chercheur, il y a beaucoup d'idées reçues, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. L'idée de ces podcasts, c'est de tout vous expliquer. Y a-t-il un parcours type pour devenir chercheur ? Le devient-on par vocation ? Quel est son quotidien ? Portrait, coulisses, métier, l'INSERM vous ouvre ses portes. Êtes-vous prêt ? Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Sergent qui va nous parler des recherches menées à l'INSERM sur la maladie d'Alzheimer. Bonjour Nicolas, merci d'avoir accepté l'invitation. Donc on se connaît depuis longtemps, on va se tutoyer. Est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ?
Bonjour Aurélie, merci. Donc je suis Nicolas Sergent, directeur de recherche à l'INSERM.
Est-ce que tu pourrais nous dire ce qu'est un directeur de recherche et comment on devient directeur de recherche INSERM ?
Alors un directeur de recherche, c'est un chercheur qui, dans son évolution de carrière, a suffisamment progressé, avancé et acquis de connaissances dans un domaine très spécialisé, reconnu par ses pairs, qui ont quelque part donné ce titre de directeur de recherche afin qu'il ait une certaine autonomie pour mener à bien ses travaux de recherche dans ce domaine d'expertise. J'ai commencé ma carrière de chercheur en 2000, où j'étais recruté à l'INSERM suite à un concours. Mais avant de pouvoir se présenter à ce concours, j'ai d'abord passé un master, donc un bac plus 5, ensuite réalisé une thèse.
Tu as passé un master de sciences. Ça consiste en quoi ?
Alors le master, c'est une année mixte d'approfondissement sur la connaissance dans un domaine bien particulier. Dans ce contexte-là, c'était le vieillissement, dans tous les sens du terme, et une période de stage de 6 mois dans un laboratoire de recherche. Et ce laboratoire de recherche, c'est un laboratoire lillois qui, à l'époque, était dirigé par Jean-Claude Beauvillain, et je travaillais dans l'équipe d'André Delacourte, qui était alors à l'époque la personne qui a développé toute la recherche Alzheimer à Lille.
D'accord. Et après, tu as décidé de te spécialiser
dans le vieillissement du cerveau.
Est-ce que tu pourrais présenter tes travaux de recherche ?
En quelques mots, mes travaux de recherche, c'est, ça a été un premier stage de découverte au sein du même laboratoire où j'ai pu travailler sur les problèmes génétiques liés aux maladies neurodégénératives et en particulier la maladie d'Alzheimer.
Neurodégénérative, est-ce que tu peux expliquer brièvement ?
Alors c'est quelque chose de particulier qu'on attribue au fait que le vieillissement des neurones dans le cerveau peut parfois se déboucher sur une figure. Alors là, c'est pareil, je vais utiliser un mot qui est compliqué. Donc une figure que les médecins qui observent les lésions du cerveau définissent comme des agrégats de protéines dans les neurones qui vont mourir. C'est justement toute l'histoire de l'Alzheimer qui a débuté au début des années 1900, en 1907, où avec l'émergence de la photographie, en fait, on a pu colorer des tranches de cerveau par cette coloration de révélation à l'argent. Et ce médecin neuropathologiste allemand et neurologue, Alois Alzheimer, a observé donc ces coupes de cerveau et il a pu déceler donc des figures tout à fait singulières, et les neurones étaient colorés en noir par cette coloration argentique. Et donc ça a été la première description véritable de ce qui pouvait se passer dans un cerveau d'une personne qui était démente. Et ça a été le début de la recherche sur la maladie d'Alzheimer, afin de comprendre pourquoi ces neurones accumulaient cette coloration argentique.
Et est-ce que tu pourrais nous résumer ce qu'on connaît maintenant sur la maladie d'Alzheimer ?
La maladie d'Alzheimer est d'abord une pathologie qui est extrêmement complexe parce qu'elle fait partie de ces maladies qui apparaissent avec l'âge, avec le vieillissement, et elle touche à plus de 90% des personnes qui ont au-delà de 60 ans. L'évolution de cette maladie repose sur un principe qui est probablement le même que dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob ou la maladie de la vache folle qu'on connaît peut-être mieux. C'est-à-dire que l'agent initiateur de la maladie, c'est une protéine qui est tout à fait normale dans la vie courante de l'individu et qui peut-être avec le vieillissement, dans des conditions qui pour l'instant nous échappent, va prendre une structure qui n'est pas normale. Mais en prenant cette structure qui n'est pas normale, elle a la propriété de conférer aux protéines normales d'adopter cette même structure qui devient anormale et qui va être à l'origine de quelque chose qui va se mettre en exergue et de façon continue et très progressive. Et donc, à l'heure actuelle, c'est comprendre tous les mécanismes à la fois l'initiation de ce processus et comment ce processus se propage dans le cerveau avec un chemin qui est toujours le même. Et ce chemin s'associe en plus avec l'apparition des signes de démence. Les thérapies à l'heure actuelle qui sont mises en place sont des thérapies soit de petites molécules, dans le but de développer un médicament sur la base de petites molécules, ou l'immunothérapie, c'est-à-dire le vaccin, comme celui qu'on utilise pour le Covid, avec d'autres stratégies, bien entendu, qui sont mises en place. Mais là, je pense qu'à l'heure actuelle, la plus grande découverte dans l'Alzheimer est celle-là. C'est comprendre comment la maladie se met en place et progresse très lentement dans le cerveau et va ensuite envahir l'ensemble du cerveau.
Et justement, avait été trouvé des médicaments anti-Alzheimer. Et je voulais savoir ce que tu pensais de la décision du ministère de la Santé de dérembourser ces médicaments anti-Alzheimer.
Le fait de prendre une décision de déremboursement repose sur plusieurs critères. Mais ça a toujours des conséquences. La prise en charge à l'heure actuelle des patients atteints de démence se fait dans des structures spécialisées, qui sont les départements de neurologie dans les hôpitaux, avec un certain nombre de professionnels donc du domaine médical et paramédical, en particulier des psychologues, qui ont, au-delà de prescrire un médicament, mis en place un certain nombre de dispositifs pour avoir un suivi systématique des patients qui développent une démence. Et le suivi n'est pas circonscrit à la personne. On ne s'occupe pas que de la personne, mais on s'occupe également des accompagnants et on s'occupe d'autres problématiques qui sont dans l'environnement de la personne qui a une démence. Et le fait de supprimer le remboursement d'un médicament, quelque part, ça vient couper l'herbe sous le pied de la dynamique et des efforts qui sont mis en place par tout ce corps médical et ces personnes qui prennent en charge les patients déments et leurs familles. Parce que, après tout, pourquoi aller voir le médecin s'il n'y a pas de médicament pour soigner la maladie? Mais le problème, c'est que le médecin n'est pas simplement prescripteur. Il a d'autres préoccupations que celle de donner simplement un médicament. Et il a comme préoccupation de mieux prendre en charge la maladie, également de mieux la diagnostiquer, de mieux la comprendre et d'avoir un suivi qui soit le mieux adapté à chacune des personnes et à chacune des familles en leur proposant toujours quelque chose qui est amélioré. Donc le médicament, en fait, n'est pas tellement important. S'il y avait une solution médicamenteuse, ça serait extraordinaire. Néanmoins, d'avoir déremboursé d'une, c'est de retirer quand même des molécules qui avaient un effet chez un certain nombre d'individus, avec un maintien souvent de l'état de démence qui était stabilisé pendant une période. Et ensuite, c'était l'opportunité d'avoir un suivi de ces patients.
D'accord. Autre sujet, on va parler d'une autre de tes casquettes, la vulgarisation scientifique. Pourquoi tu fais de la vulgarisation scientifique auprès du grand public, auprès des jeunes? À ton avis, est-ce que ça peut susciter des vocations?
La vulgarisation, ça a son importance parce que le chercheur, dans son activité, a pour but et pour finalité de générer de la connaissance. Le terme d'intellectuel n'est pas pour moi bien approprié, c'est plutôt un savant ou un sachant, ou c'est quelqu'un qui est avide de connaissances. Mais si sa connaissance doit rester dans le cercle de son laboratoire, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Le fait de générer du savoir, c'est de pouvoir le partager et de le rendre surtout disponible à une très grande majorité et de leur faire comprendre ce qui est l'intérêt du chercheur, c'est-à-dire de répondre à des questions que tout le monde ne se pose pas nécessairement. Donc la vulgarisation, c'est simplement de dire avec des mots simples, et souvent c'est un exemple que je prends, c'est si je devais expliquer ce que je fais en recherche à une école de maternelle, comment j'exprimerais ce que je fais?
Que ce soit compréhensible par tous.
Tout à fait.
Mmh. Et qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite justement se lancer dans la recherche?
C'est une question qui est intéressante en ce sens que On ne devient pas chercheur du jour au lendemain. C'est un apprentissage qui est très long.
Est-ce que ça se fait par vocation ? Est-ce que c'est un métier de vocation ?
Oui, il en faut. C'est un métier de passion, de vocation, où il faut effectivement certaines aptitudes, mais ces aptitudes, elles peuvent venir également avec, avec l'apprentissage de ce métier, parce que c'est avant tout un métier. C'est un métier qui est extraordinaire parce que c'est aussi un métier de partage, c'est-à-dire que à la différence peut-être d'autres activités, cette activité est universelle. C'est-à-dire que dans des domaines très pointus, on ne peut pas faire sans les chercheurs à travers le monde. Et donc, c'est la recherche au niveau mondial qui fait avancer la connaissance.
D'accord. Et pour faire de la recherche, il faut de l'argent. Peux-tu nous dire comment est financée la recherche ?
Alors, la recherche est financée, en ce qui nous concerne, par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et une enveloppe budgétaire est dédiée aux structures et aux salaires. Et par contre, chaque chercheur maintenant doit aller chercher, c'est le cas de le dire, ses financements pour mener à bien ses travaux de recherche. Et donc, c'est une certaine compétition qui est instaurée et qui permet en fait d'être sûr qu'on a toujours quelque part cet esprit de compétition positif, de telle manière à ce que la qualité de la recherche reste toujours assez élevé, de telle manière à financer les projets qui sont les plus en vogue dans les domaines d'expertise, que ce soit bien entendu les maladies neurodégénératives, le cancer, la virologie avec les problèmes qu'on rencontre dans le Covid. La difficulté, c'est que la masse de chercheurs en France est assez importante et qu'il faut se partager un budget qui est établi par l'État en termes de recherche. Et ce budget n'est pas le même dans tous les pays, avec le même rapport entre le nombre de chercheurs et le budget alloué. Mmh. Donc il y a des dotations qui sont plus importantes dans d'autres pays. Hein. On ne peut pas dire que la France soit un mauvais élève, mais elle n'est pas dans le peloton de tête du rapport entre le nombre de chercheurs et les financements attribués.
Et la recherche française reste-t-elle compétitive ?
La recherche française a une belle aura internationale. Je prendrai comme seul exemple les prix Nobel. On a quand même quelques prix Nobel récemment au niveau de la recherche française. Donc je pense que la compétition et la qualité de la recherche française est toujours au rendez-vous. Néanmoins, je pense que comme toute activité, et on prêche tous pour notre paroisse, on a tous envie d'avoir plus de moyens pour que cette recherche soit toujours aussi compétitive. Il ne s'agirait pas qu'on perde en compétition parce qu'on a moins de moyens pour travailler.
Je te remercie, Nicolas.
C'est moi qui te remercie, Aurélie.
Merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Sachez que vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur les grandes plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux Inserm Nord-Ouest. À bientôt.